On a 90% d'échecs et 10% de réussite. Alors ça peut paraître, il n'y a pas très ambitieux, mais c'est la réalité humaine. Et il y a plein de parallèles qu'on peut faire dans la vie courante où si aujourd'hui vous crevez sur le bord de la route avec votre voiture, vous voulez arrêter une voiture pour que quelqu'un vous aide à remplacer votre roue, vous n'aurez pas 10 personnes sur 10 qui vous aideront. Je vais dire de façon un peu prosaïque, c'est ça, recruter une source. C'est de l'humain.
Le sol, tous victimes d'une attaque chimique présumée à Douma. Les casques blancs et l'opposition en exil accusent les forces de Bachar al-Assad d'avoir eu recours à des bombes de gaz chlorique. Ce n'est pas la première fois que les soupçons d'usage de l'arsenal chimique syrien pèsent sur les forces gouvernementales. L'administration Obama, en 2012, avait fait de cette utilisation d'armes chimiques une ligne rouge à ne pas franchir.
Malheureusement, les allégations d'emploi d'armes chimiques depuis plus d'une décennie maintenant, c'est des choses que l'on entend régulièrement.
Le régime syrien s'est-il livré à une attaque chimique sur la route orientale? C'est ce qu'affirment des observateurs sur place. Selon les casques blancs qui opèrent sur le terrain, des gaz toxiques auraient été utilisés. Damas a démenti ces accusations.
Ce qui se passe, c'est que l'événement chimique va d'abord apparaître dans ce que l'on appelle l'ouvert. Des tweets, des posts Facebook, dans la presse et tout ça, parce que c'est les gens sur place qui l'ont témoigné et qui vont dire il s'est passé ça, il s'est passé ci. Donc nous, notre travail, c'est de recueillir ces éléments-là, d'orienter nos capteurs afin de voir si vraiment il y a un événement chimique supposé ou pas.
It's a farce, it's a play, it's very primitive. The side who said allegedly that there was a chemical attack, he had to prove that there was attack. That question should be directed to the Western officials who said there was attack. We should ask them, what was your concrete evidence about what happened?
Le « on dit », ça vaut rien. Et on le prend pour tout ce qui concerne les allégations d'armes chimiques dans un pays X ou Y. Les premiers retours, ça va être « ah oui, il y a eu de la fumée, ah oui, ça piquait les yeux, ça sentait, il a toussé, il est mort ». Voilà, allez expliquer ça à vos autorités. Non, mais il a toussé, il est mort, ça suffit pas. Et c'est pas scientifiquement probant. Un ingénieur, ça aime le concret, ça aime les preuves, et donc ça va mettre au point une méthodologie pour récupérer la preuve.
Si on estime qu'il y a très probablement un événement chimique, on va activer nos opérations et notre réseau pour essayer de prélever un échantillon.
C'est notre métier en fait, dans le renseignement humain, c'est de pouvoir disposer d'un panel de possibilités pour récolter de manière traçable de A à Z des preuves d'un événement sur le terrain. Les échantillons biomédicaux prélevés sur des victimes, des échantillons environnementaux, donc de la terre, des végétaux, un morceau de mur, un morceau de porte, un morceau de munition elle-même, si on a vraiment l'opportunité d'y accéder.
Les sources qui sont formées, on leur donne des kits, puis on leur apprend comment conserver dans des conditions les plus favorables possibles l'échantillon. Quand les situations sont tendues, il faut vraiment beaucoup de monde. Et en fait, on crée des espèces de maillages, c'est comme un réseau d'alerte. Et en fonction de la zone, on va dire à 1, 2, 3, 4 personnes qui sont bien placées, allez go, sachant qu'elles ne se connaissent pas les unes les autres, pour que s'il y en a une qui est prise, elle ne puisse pas compromettre les autres. Des fois, on a 2-3 échantillons d'une même attaque qui arrivent et c'est super. Faire rentrer un agent dans un pays pour faire un prélèvement, c'est quasi la même opération pour le faire sortir du pays avec le prélèvement. Donc c'est des opérations clandestines qu'on appelle d'infiltration, d'exfiltration.
Les opérations de contre-prolifération, parfois le dernier segment peut être exposé dans des zones grises où il faut être capable de s'autoprotéger, si ça se passe mal, de s'auto-exfiltrer. Et donc là, le SA, outil militaire, est finalement capable de conduire ce type d'opération. Pour ce faire, vous avez des moyens civils et des moyens militaires qui se sont connus, parce que ce sont les moyens militaires français. Tracteurs sous-marins pour évoluer sous l'eau, des jet skis, des quads pour se déplacer dans les milieux, différents milieux, les avions qui permettent de larguer des charges lourdes sur la mer ou sur la terre pour permettre après de passer au-delà des frontières et non pas passer par l'aéroport et laisser ses empreintes.
De terre, le prélèvement qui a été fait sur une victime d'une attaque, une fois qu'elle arrive sur le territoire national, elle va finir par exemple dans notre laboratoire de chimie qui est à même de procéder à un ensemble d'analyses. Toute une gamme d'instruments de laboratoire qui permettent de caractériser, de trouver des particules dans un échantillon par l'utilisation d'un microscope électronique à balayage. Des gens compétents qui maîtrisent tous ces moyens d'analyse en laboratoire et d'avoir au final des rapports d'analyse concrets qui vous disent oui, non, peut-être parfois de quantifier la présence de produits toxiques dans ce qu'on a ramené du thym. Notre laboratoire va dire par exemple il y a présence de tels toxiques dans l'échantillon. Nous, notre équipe, on va déjà se prononcer un cran d'au-dessus, ça va être donc il y a eu utilisation de tel agent toxique, si possible par tel belligérant, parce que c'est un missile, une roquette, la situation tactique sur le terrain était celle-là.
Si on sait qu'on a une vidéo d'un hélicoptère qui largue une grenade, on sait que dans telle zone, la voie aérienne est maîtrisée par le pays pour l'opposition, l'imputabilité sera plus sur le pays en question mais pas l'opposition.
Il y a ce côté Sherlock Holmes, je cherche les indices, je les collationne et j'en sors un produit fini, ce qu'on appelle chez nous une fiche jaune, mais une note jaune.
Avant d'arriver à la DGSE, j'ai étudié et travaillé dans le milieu de l'édition. J'avais à cœur la diffusion de la connaissance. Aujourd'hui, je me dis juste que je travaille à diffuser de la connaissance très spécifique à des destinataires très spécifiques. Ça, c'est une note de renseignement. Elle est sur un format qui est standard, donc avec le titre. En dessous du titre, il y a ce qu'on appelle l'encadré, où il y a le renseignement le plus important de la note pour que le lecteur puisse, s'il est pressé, ne lire que ça.
Cette note jaune, c'est véritablement la parole de la DGSE vis-à-vis de nos grands destinataires. En premier lieu, l'exécutif, l'Élysée, aussi tous les ministères, le ministère des Armées, le Quai d'Orsay, le ministère de l'Intérieur.
d'être celui qui va écrire le papier, qui va permettre la décision politique, que va lire le président. Oh, c'est quand même une... C'est challenging, quoi. C'est très motivant pour tous nos analystes.
À chaque fois qu'on apporte un renseignement très important, quasi stratégique, nos autorités peuvent décider d'en faire quelque chose. Et d'ailleurs, on voit parfois nos autorités aller sur les plateaux de télé pour dire « La France a pu prouver voilà, ce genre de choses. » Donc voilà, on sait que ça va avoir une implication politique importante.
Nous avons pu avoir toute une série d'informations à partir de photos, de vidéos, de témoignages sur les sites, sur les réseaux sociaux qui sont multipliés à partir des attaques chimiques.
Mais vous n'avez aucun doute.
Nous avons pu vérifier que, à partir des analyses qu'ont fait les services français, il s'agissait bien de gaz. Et c'est dans l'attaque que menaient les forces armées syriennes contre la Ghouta S que ces attaques chimiques se sont produites.
Notre but, c'est de recueillir du renseignement et le transférer à nos autorités. Ensuite, c'est nos autorités qui décident à partir de ce renseignement les actions diplomatiques ou militaires qu'elles veulent faire.
3, 2, 1, feu les ailes.
Les images sont fournies par l'armée française. Des tirs effectués depuis l'une des frégates engagées en mer Méditerranée. Il est 3h du matin à Paris, 4h à Damas. La France a tiré la nuit dernière 12 missiles de croisière au total. L'opération vise clairement le régime de Bachar al-Assad et plus précisément des sites supposés de production d'armes chimiques de la Syrie, une semaine après une nouvelle attaque présumée.
Le renseignement qu'on récolte se traduit par une action de rétorsion française, une action militaire, un engagement de troupes. Il y a une forme de fierté de se dire que concrètement, ce qu'on a fait à les bouches sur une décision politique majeure, mais ça oblige aussi. Lorsqu'on engage des moyens militaires, ça reste des collègues du ministère des Armées. C'est les conséquences derrière. Peuvent être d'ordre, enfin nous dépasse largement.
Le but de cette opération, c'était de détruire les outils chimiques clandestins du régime de Bachar el-Assad. Et à cet égard, oui, l'objectif a été atteint.
Il y a un sentiment de fierté. Le fait que nos conjoints, nos familles ne le savent pas, c'est pas gênant, parce qu'en fait, quelque part, on a tellement aussi presque cloisonné le travail et la famille. Voilà, notre famille, elle nous aime pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on fait.
Le fait qu'on ne puisse pas se prévaloir de ses succès, c'est quelque chose qu'on doit intégrer dès qu'on joint à la DGSE. Ça fait partie d'un pacte. Et j'allais dire, peut-être même que l'ultime victoire pour un membre de la DGSE, c'est de réussir une opération extrêmement complexe et ambitieuse qui n'est pas du tout éventée.
Dans l'antiterrorisme, il y a des moments où il y a de l'intensité. Cette intensité-là, on la cherche. Bon, si on ne veut pas l'intensité, on ne va pas au contre-terrorisme. Il y a aussi des... On choisit sa famille, si je puis dire. Il y a des pays, il y a des endroits... Il faut mettre des gens qui ont cette espèce de pulsion. Ils vont toujours chercher un peu plus loin. Vous savez qui sait faire quoi, qui peut faire quoi, qui aime faire quoi. Donc en fonction de la mission, vous choisissez déjà qui va la faire. Et en choisissant qui va la faire, ça induit une capacité à prendre l'initiative.
Donc voilà les photos qui ont été prises pendant l'opération. Un explosif de fortune fait en charge creuse pour avoir une capacité de perforation supérieure, de la limaille de fer, un lot de munitions, des fûts de peroxyde d'hydrogène. Donc là, on a les précurseurs pour faire des explosifs de fortune. Et ici, vous avez les bouteilles de gaz qui étaient destinées
au Centre culturel français.
Française a été attaquée sur une route à 250 km à l'est de Nouakchott. Il y a 4 morts, dont 2 enfants. La cinquième personne, de père de famille, a été grièvement blessée par balle. Le président français Nicolas Sarkozy a affirmé que tout serait fait pour rapatrier les blessés et le mort dans les meilleurs délais.
24 décembre 2007, donc la veille de Noël, je suis chez ma mère en province. Un bandeau qui passe à la télévision et qui, voilà, 4 Français assassinés à Alleg. Je regarde ça, ma sœur qui voit le bandeau défiler à la télévision, coupe la télé, voilà, on va passer une soirée tranquille. Et je partirai le lendemain sur Paris, mais au moins la soirée de Noël avec les enfants, famille, on la passe tranquille.
L'ambulance file vers l'hôpital de Nouakchott. À son bord, un homme de 70 ans grièvement blessé aux jambes, hagard. Ce père de famille vient de perdre ses 2 grands-fils, son frère et un ami. Le voyage de fin d'année de ces amoureux du désert s'achève ici, dans une petite ville touristique tranquille. Le groupe se dirigeait à bord de 2 voitures vers le Mali. Ils venaient de quitter la banque lorsque 3 personnes armées de fusils d'assaut leur réclament l'argent. Le groupe refuse, les assaillants tirent et prennent la fuite.
Bon, on l'apprend par les Mauritaniens. 4 morts, il y a un blessé, le père de famille est blessé, il y a 2 de ses fils qui sont tués, son frère qui est tué, et un ami d'un fils qui est tué. Donc 4 morts, c'est quand même un choc. On est le 24 décembre.
Sur place, le chef de poste, lui, il est mobilisé immédiatement, lui, il n'a pas de Noël, pour expliquer ce qui s'est passé. Est-ce que c'est du terrorisme? Est-ce que c'est pas du terrorisme?
Pour l'heure, difficile de savoir ce qui a motivé les tueurs. D'après la police, rien n'a été volé, mais aucune piste n'est écartée.
Les Mauritaniens nous disent, voilà, eux, ils y sont sur une opération d'opportunité, ils sont même sur une opération de brigandage qui a mal tourné, avant qu'on identifie 2 des acteurs, 2 des opérateurs, qui sont identifiés en fait par les Mauritaniens, mais on confirme que c'est des membres d'ACMI.
On se rend compte qu'on les connaît, ils sont connus de nos archives, ils sont des Mauritaniens, ils ont rejoint Al-Qaïda il y a un an et quelques environ, ils ont suivi une formation militaire et on a notamment leurs photos, on a quelques éléments de profil.
On dispose des photos, on dispose des noms et on dispose des numéros de téléphone qu'ils utilisent, on récupère ça.
Parti d'Alleg, où ils ont abandonné leur Mercedes, les 3 Mauritaniens auraient pu franchir le fleuve vers le Sénégal quelques heures après l'attaque.
Selon un chauffeur de taxi qui les a transportés, les 3 tireurs s'approcheraient de la frontière vers le Sénégal. C'est la première fois qu'une telle attaque a lieu dans cette partie du pays.
C'était le premier attentat anti-français hors d'Algérie depuis la création d'ACMI. On voulait marquer le coup. Pour nous, c'était extrêmement important de stopper les auteurs tout de suite, pour ne pas donner le sentiment d'impunité à ceux qui avaient commandité ça. On envoie une équipe multicapacitaire. Des gens qui ont des capacités d'interception technique locale, localisation, des moyens de sécurité du service action, des moyens de projection. On envoie une équipe très très vite.
On arrive à Dakar. Vers le 2 ou 3 janvier, les individus quittent Dakar et traversent le Sénégal. On les suit grâce aux renseignements que nous donnent les Sénégalais avec les opérateurs de téléphonie. Et on voit qu'ils se déplacent et qu'ils traversent la Gambie, direction la Guinée-Bissau. Et là, on les perd. Donc on décide de projeter l'équipe à Bissau. Et donc on arrive le 10 à Bissau, le soir s'installe à l'hôtel et je regroupe mon équipe opérationnelle. Alors une équipe qui est composée d'un IMSI catcher avec 2 opérateurs de la direction technique pour le mettre en œuvre.
L'Ipsicatcher, c'est un appareil qui détecte des téléphones dans une zone donnée avec une distance approximative. Maintenant, la distance, elle peut être au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Les premiers Ipsicatchers n'étaient pas très précis. Au début, on avait du mal à descendre en dessous d'un carré de 300 mètres sur 300 mètres. Décide d'aller faire une reconnaissance de la ville pour prendre contact un petit peu avec la géographie, avec la topographie, etc. Quitte à prendre contact et à faire une reconnaissance, autant mettre les appareils en marche. On tourne dans la ville, mais on tourne sans savoir où on va. De notre parcours, il doit être à peu près 11h30, je ramène l'équipe à l'hôtel et là, l'appareil sonne. Ding dong. Qu'est-ce que je fais? Je ne m'attendais pas à trouver mes clients aussi rapidement. Il est minuit et demi, donc on s'écarte pour ne pas attirer l'attention. Là, je fais venir la police judiciaire parce que les clients sont là dans l'hôtel, quoi. Et ils vont à la réception de l'hôtel. Là, le réceptionniste lui dit « Oui, oui, ils sont là, chambre 17. » Donc, ils rentrent dans la chambre 17, ils étaient tous les deux dans le même lit. Ils crient « Allah Akbar » et ils reconnaissent très rapidement leur participation à l'assassinat. Ça correspond bien aux deux individus qu'on avait. Et donc, ils sont arrêtés et puis mis en prison en Guinée, à Bissau, quoi.
Les tueurs avaient abandonné leur voiture.